pour la suite de cet exposé du Cercle Léon Trotsky sur le combat pour l'émancipation des femmes et le mouvement ouvrier, je repasse la parole à la camarade Anne Lomier.
Avant la révolution russe, dans ce pays semi-féodal qu'était la Russie, l'illettrisme était bien plus élevé chez les femmes que chez les hommes et touchait en 1914 les deux tiers d'entre elles. En Russie, une femme mariée qui n'était pas battue faisait figure d'exception. La loi l'autorisait explicitement. D'ailleurs, dans les grandes familles, la tradition voulait que le père remette le fouet au gendre le jour du mariage. Pourtant, à toutes les pages de l'histoire du mouvement révolutionnaire russe, on retrouve des noms de femmes. À la fin du XIXe siècle, chez les Narodniki, ces militants qui veulent soulever le peuple contre le tsar en recourant au terrorisme individuel, nombre d'entre eux sont des femmes issues de l'intelligentsia. Le 24 janvier 1878, Vera Zasulich tire sur le préfet de Pétersbourg pour mettre fin à la répression dont sont victimes les Narodniki. Vera Figner participe à la création de l'aile paramilitaire de son organisation et à la planification de l'attentat contre le tsar Alexandre II. Le 1er mars 1881, à Odessa, c'est Sophie Perovskaya qui donne, en levant son mouchoir, le signal de l'exécution du tsar. Plus tard, des intellectuels, des ouvrières adhèrent et militent au sein du Parti social-démocrate russe. Et le 8 mars 1917, la révolution débute par la révolte des ouvrières du textile de Saint-Pétersbourg, ce contingent du prolétariat exploité et opprimé plus que tous les autres. La révolution se fait avec de nombreuses ouvrières qui font grève, manifestent et s'arment. Elles luttent au sein des sections de mitrailleurs, des services de renseignement et d'espionnage. Dans l'armée rouge, elle creuse des tranchées. Elle monte la garde sur les barrages routiers, empêchant la fuite des déserteurs qui, à la vue de ces combattantes armées et prêtes à se battre et même à mourir, se sentent honteux et moralement obligés de retourner à leur poste. L'État ouvrier, c'est aussi le premier gouvernement au monde dans lequel des femmes siègent. Dès le premier mois, une femme est nommée commissaire du peuple à l'assistance sociale, Alexandra Kollontai, une dirigeante bolchevique. En Ukraine, et jusqu'en automne 1921, la militante bolchevique Majorova occupe un poste semblable. Dans les provinces, il y a de nombreuses femmes commissaires, des ouvrières et des paysannes. Les mesures prises par le pouvoir des conseils ouvriers et paysans et la politique menée par le parti bolchevique sont des exemples dont nous pouvons être fiers. À juste titre, Lénine affirme « Aucun État... aucune législation démocratique n'a fait pour la femme la moitié de ce que le pouvoir soviétique a fait dès les premiers mois de son existence. Il y a d'abord les décrets pris par le gouvernement soviétique. 7 semaines après la prise du pouvoir en octobre 1917, le mariage religieux est aboli et le mariage devient une simple formalité civile. Tous les enfants obtiennent les mêmes droits, qu'ils soient nés hors mariage ou pas. Le divorce n'est plus qu'une affaire simple et d'ordre privé en cas de consentement mutuel. L'adultère et l'homosexualité ne sont plus considérés comme des délits et ne sont donc plus punis par la loi. L'autorité du chef de famille disparaît du code civil. Le code de la famille de décembre 1918 est alors unique en Europe par son esprit de liberté, établissant l'égalité absolue entre mari et femme. Le droit d'héritage est supprimé. C'est le premier État à légaliser à la fin de l'année 1920 l'interruption de grossesse. Vis-à-vis des populations musulmanes de Russie, le premier congrès les concernant en 1920 décide l'abolition de la polygamie, l'interdiction du mariage des petites filles et la fin de l'obligation de porter le voile. L'instruction devient obligatoire aussi bien pour les filles que pour les garçons. Mais les communistes au pouvoir ne se contentent pas de l'égalité en droit. Ils savent que l'oppression des femmes est une conséquence de la division de la société en classes sociales et que la fin de cette oppression ne peut se contenter de simples décrets, si justes soient-ils. Il faut un changement radical de la place des femmes dans la société, en particulier en leur donnant les moyens de participer pleinement à la production des richesses. Comme le dit Alexandra Kollontai en 1921, je la cite, « L'acte révolutionnaire le plus important est l'introduction du travail obligatoire pour les hommes et les femmes adultes. Cette loi a apporté un changement sans précédent dans la vie de la femme. Elle a modifié le rôle de la femme dans la société, l'État et la famille de façon bien plus importante que tous les autres décrets depuis la Révolution d'octobre et qui accordaient à la femme l'égalité politique et civique. Cette égalité dans le travail productif, c'est la condition nécessaire à l'égalité dans les autres domaines de la vie sociale. L'égalité politique ajoutée au travail obligatoire pour tous contribue à faire reconnaître les femmes comme des êtres à part entière. Et puis, il y a l'action militante et volontariste du parti pour que la loi entre dans la vie et change réellement la société. Pour cela, le parti en appelle à l'action des femmes elles-mêmes. En 1921, lors d'une réunion de l'Internationale communiste, Alexandra Kollontai défend un plan d'attaque contre les habitudes sociales pour entraîner les femmes qui, par leur place dans l'ancienne société, n'ont pas confiance en elles. Le parti bolchévique se donne pour objectif de faire entrer les ouvrières, paysannes, ménagères ou employées dans toutes les organisations liées aux soviets. Il veille à ce que les ouvrières soient élues au conseil d'industrie et à tous les niveaux d'organisation de la production. Le parti demande à des militantes d'aller travailler comme ouvrières ou employées là où il y a un grand nombre de femmes, pour y faire de la propagande et tenter d'y modifier les habitudes. Dans les usines mixtes, l'État encourage des femmes à participer, à l'égal des hommes, à la vie du soviet. Le parti a aussi une politique vis-à-vis des femmes au foyer. Chaque militante doit passer au moins une fois par semaine chez une dizaine de ménagères afin de faire de la propagande pour l'égalité et tenter d'associer le maximum de femmes au fonctionnement de l'État ouvrier. Comme Lénine le souhaite, chaque cuisinière doit apprendre à diriger l'État. Et puis l'État socialiste, l'État soviétique, ne ferme pas les yeux sur les problèmes considérés souvent comme relevant de la sphère privée. Il prend des mesures pour libérer les femmes des tâches ménagères. Lénine affirme en 1919 « Malgré toutes les lois que nous avons faites pour l'émancipation de la femme, elle continue à être une esclave domestique parce que le travail domestique la ramène en arrière, l'étrangle, l'enferme et la dégrade, l'emprisonne dans sa cuisine où elle gaspille son temps et son travail dans des corvées ingrates. » La société capitaliste a développé les techniques. Elle a créé ces véritables concentrations humaines que sont les villes industrielles. Elle a rendu bien des actions collectives avec la division du travail. Mais quand il s'agit des tâches ménagères, elle continue à les faire reposer sur les individus, surtout sur les femmes qu'elle cantonne à l'intérieur de leur foyer. Cette organisation de la vie domestique est trop individuelle et mesquine. Elle ne correspond absolument plus aux immenses possibilités de se débarrasser d'un travail ennuyeux et vain. C'est à cela que l'État soviétique s'est attaqué, en développant des restaurants collectifs, des laveries publiques. L'État soviétique prend aussi en compte les charges liées à la maternité et à l'éducation des enfants, qui reposent quasi exclusivement sur les femmes. Alexandra Kollontai dit, je la cite, « Le fait que la femme n'est pas uniquement citoyenne et force de travail, mais qu'elle met aussi des enfants au monde » la placera toujours dans une situation particulière. C'est ce que les féministes refusèrent de comprendre en se contentant de parler d'égalité formelle. Le prolétariat, lui, ne peut se permettre d'ignorer cette réalité essentielle lorsqu'il s'agit d'élaborer de nouveaux modes de vie. Et plus loin, si nous voulons donner aux femmes la possibilité de participer à la production, la collectivité doit les décharger du lourd fardeau attaché à la maternité. C'est pour cela C'est pour cela que l'État ouvrier construit des crèches et des garderies. Il prend aussi des décrets qui instituent la gratuité de l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de 17 ans. Des décrets qui assurent aux frais de l'État l'existence de la femme enceinte et de la jeune mère. Et toute cette politique, l'État ouvrier tente de la mener alors qu'il traverse les pires difficultés, y compris pour sa survie, même pendant les années les plus noires de la guerre civile. Reste la manière dont la politique bolchévique a été menée. Les bolcheviques au pouvoir n'ont pas eu une politique autoritaire. Ils ont, bien sûr, lutté contre l'influence de l'Église sur la société et notamment sur la famille, mais ils ont surtout cherché à convaincre. Par exemple, quand en 1923 commence l'élaboration d'un nouveau code de la famille, celui-ci est discuté pendant des mois dans toute la population. À partir de 1925, des milliers d'assemblées sont organisées dans les villages, dans les usines, qui permettent des discussions publiques. Ou encore, le journal La Pravda publie les lettres de lecteurs donnant leur point de vue sur la question. Après une année de débat, en 1926, le nouveau code de la famille décide finalement de l'égalité en droit entre le mariage enregistré à l'état civil et l'union libre. En matière d'égalité des droits, la Russie bolchévique réalise ce pour quoi se battent les féministes en Europe et aux États-Unis. Et pas que sur le plan politique où les femmes obtiennent le droit de vote, le droit d'être candidate et élue, mais aussi en donnant les moyens de révolutionner les modes de vie. En quelques années, les Russes gagnent ce que les féministes ailleurs mettront des décennies à obtenir. Mais la Russie révolutionnaire sort exsangue de la guerre civile. La vague révolutionnaire qui traverse l'Europe n'aboutit nulle part. La Russie communiste se retrouve isolée dans une période de réaction politique générale en Europe. Par conséquent, le nouveau pouvoir doit tenir seul pour préserver les possibilités politiques d'une prochaine montée révolutionnaire. La bureaucratie qui fait fonctionner l'État soviétique russe prend peu à peu le pouvoir et s'émancipe du contrôle des masses ouvrières épuisées par les 7 années de guerre, de révolution et de guerre civile. Les dirigeants staliniens rompent avec la tradition révolutionnaire en éliminant toute la vieille garde bolchévique. La stalinisation du pouvoir se traduit par un retour en arrière, aussi bien sur les droits conquis par les exploités avec le renversement du pouvoir de la bourgeoisie et des puissants, que sur les femmes. C'est le retour des anciennes valeurs bourgeoises, depuis le travail aux pièces dans les usines jusqu'à la sacro-sainte famille. En 1936, la même année où commencent les procès de Moscou, la dictature stalinienne interdit l'avortement. Elle décrète aussi l'augmentation des frais du divorce. Il faut, dit-elle, protéger la nouvelle famille soviétique et lutter contre ce que les bureaucrates appellent une attitude légère et négligente envers le mariage. Cette dégénérescence stalinienne a des conséquences sur tous les partis de l'Internationale communiste. Non seulement ils deviennent de simples exécutants de la politique contre-révolutionnaire dictée par la diplomatie stalinienne, mais ils reprennent également à leur compte les idées réactionnaires sur les femmes invitées à procréer et à s'occuper de leur foyer. En France, le parti communiste stalinisé abandonne toutes les luttes qui auraient pu faire de lui un parti révolutionnaire, entre autres la lutte des femmes pour leur émancipation. Pourtant, à sa création, le parti communiste s'opposait à une loi indigne de 1920, loi qui condamnait les avorteuses et celles qui avortaient comme des criminels. Dans ces années-là, le parti communiste lié à la révolution russe n'avait pas peur de défendre ni la contraception, ni le droit à l'avortement, ni la possibilité pour les femmes de se faire élire. C'est ainsi que, en 1924, une militante ouvrière, Joséphine Pincalet, était élue sur une liste communiste au conseil municipal de Douarnenez. Et cela alors que les femmes n'avaient ni le droit de vote, ni celui d'être élues. Ainsi, en 1936, la même année où il s'allie avec les radicaux et les socialistes pour saborder la grève générale, le Parti communiste cesse de revendiquer l'abrogation de la loi contre l'avortement de 1920 et considère que des mesures doivent être prises pour favoriser les naissances. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Parti communiste devenu Parti communiste français, participe au gouvernement. À partir de 1945, le PCF célèbre la fête des mères et il se présente comme un défenseur de la famille française. En 1949, Jean Canapa, caution intellectuel du PCF, crache sur le livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. Il écrit qu'il s'agit, je le cite, « d'une ordure qui soulève le cœur ». Ce livre a pourtant l'immense mérite de remettre sur le devant de la scène des idées féministes autrefois défendues par le Parti communiste. En février 1956, le PCF part en guerre contre une proposition de loi sur le contrôle des naissances et la légalisation des moyens contraceptifs. Jeannette Vermersch, vice-présidente de l'Union des femmes françaises, une organisation satellite du parti, s'oppose à ce projet de loi. Comme quoi, créer une organisation spécifique pour les femmes n'est vraiment pas une garantie de féminisme. Cette dirigeante du PCF s'exprime ainsi, je la cite. Le contrôle des naissances, la maternité volontaire est un leurre pour les masses populaires, mais c'est une arme entre les mains de la bourgeoisie contre les lois sociales. Depuis quand les femmes travailleuses réclameraient le droit d'accéder aux vices de la bourgeoisie ? Jamais. Fin de citation. En avril 1956, elle adresse une note au secrétariat du parti dans laquelle elle affirme qu'une légalisation de la propagande pour les moyens de contraception entraînerait une baisse alarmante de la natalité. Elle craint également un déchaînement de la propagande pour l'éducation sexuelle, qui aurait pour conséquence à la fois de fausser les problèmes de classe et de heurter les sentiments familiaux et humains, et de favoriser la dénatalité. Quant au secrétaire général du PCF, Maurice Thorez, il affirme « Il ne nous semble pas superflu de rappeler que le chemin de la libération de la femme passe par les réformes sociales, par les révolutions sociales et non par les cliniques d'avortement. » La position défendue par le PCF en 1956 est maintenue pendant plusieurs années. Il faut attendre 1965 pour observer un premier infléchissement sur cette question suite à la mobilisation de l'opinion publique par le planning familial. Le stalinisme a chassé les idées révolutionnaires du mouvement ouvrier et s'est adapté à la société capitaliste. Le PCF stalinisé a abandonné les combats que menait le mouvement communiste contre toutes les oppressions, l'anticolonialisme, la lutte contre le nationalisme, contre le racisme, et aussi les combats du quotidien contre tout ce qui obscurcit la conscience des exploités, de l'alcoolisme à la religion. Il abandonne également la lutte féministe. C'est pour cela que les mouvements de protestation féministe qui se développent dans les années 1960-1970 le font en dehors des organisations réformistes du mouvement ouvrier. C'est pour cela que dans les années 1970, le mouvement de libération des femmes, le MLF, défile dans les manifestations du 1er mai avec les révolutionnaires et pas derrière le PCF ou le Parti socialiste. Car les féministes se battent sur un terrain déserté par les organisations qui affirment pourtant représenter les intérêts des travailleurs et des opprimés. C'est vers la fin des années 1960 aux États-Unis que le mouvement féministe réapparaît, en même temps que le mouvement de la population noire pour les droits civiques et le mouvement pacifiste contre la guerre au Vietnam. En France, le mouvement féministe sort de la secousse sociale de mai 1968. Dans ce contexte d'agitation sociale et de remise en cause des valeurs de l'ordre établi, sont fondés, en 1973, le mouvement Choisir et le MLAC, mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Mouvement auquel participent plusieurs organisations politiques d'extrême gauche, dont Lutte ouvrière, avec notre camarade Arlette Laguiller. Le MLAC se donne pour but d'imposer l'abolition de la loi de 1920 interdisant aux femmes d'avorter. Avant la loi Veil votée en 1975, l'interruption volontaire d'une grossesse non désirée était punie d'emprisonnement pour celles qui avortaient et ceux ou celles qui les y aidaient. En réalité, l'hypocrisie régnait en maître, puisque chaque année, des centaines de milliers de femmes mettaient fin à une grossesse non désirée. Celles qui en avaient les moyens pouvaient le faire dans de bonnes conditions sanitaires à l'étranger. Les autres devaient se débrouiller en risquant leur santé. Et chaque année, plus de 300 femmes mouraient des suites d'un avortement clandestin. Cependant, cette loi de 1975 n'a pas été un cadeau du gouvernement, mais le résultat d'une lutte acharnée. En 1971, 343 femmes célèbres signent et publient un manifeste dans lequel elles affirment avoir avorté. Elles s'appellent Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Agnès Varda, Delphine Seyrig, Christiane Rochefort. Elles bravent ainsi la loi qui interdit l'avortement. Elles sont décriées par la meute des défenseurs de la famille, qu'ils soient de droite ou de gauche. L'année suivante, en 1972, c'est le procès de Bobigny. Une jeune femme de 17 ans ayant avorté se retrouve sur le banc des accusés avec sa mère qui l'y a aidée. C'est l'avocate Gisèle Halimi, militante féministe, qui plaide leur cause au tribunal, tandis qu'un grand mouvement de soutien se constitue autour de celles considérées comme des coupables aux yeux de la loi. Elles sont relaxées. C'est une grande victoire qui encourage bien des femmes à participer aux manifestations suivantes, à relever la tête, à oser parler autour d'elles, soutenir les discussions et défendre un autre point de vue que celui des partisans de la famille. Un an plus tard, en 1973, 331 médecins déclarent avoir pratiqué des avortements clandestins sans être finalement inquiétés par la justice. Des associations telles que le planning familial et le MLAC installent des centres dans lesquels des médecins pratiquent des avortements et organisent publiquement des voyages en bus vers les pays où il est possible d'avorter. Et surtout, toutes ces actions hors la loi sont alors accompagnées par de grandes manifestations. Au bilan, en France, le mouvement féministe a réussi par ses luttes à imposer des lois. Le droit de disposer de ses biens sans l'autorisation de son mari, le droit d'avoir un compte en banque, le droit d'utiliser les moyens de contraception, la suppression de la notion de chef de famille, le droit d'avorter, l'obligation de la mixité dans les écoles, le divorce par consentement mutuel, la dépénalisation de l'adultère. Les années 1960-70 sont marquées par une certaine libéralisation des mœurs qui ont permis à des générations d'en finir avec les vieux modèles de soumission des femmes. Mais il ne faudrait pas oublier que cette évolution n'est pas si vieille et que chaque droit, il a fallu l'arracher. Des Saint-Simoniennes aux militantes du suffrage, en passant par les militantes socialistes puis communistes, il a fallu le courage moral d'aller à contre-courant. Il a fallu le courage physique pour aller manifester en sachant qu'il y aurait la matraque ou la prison. Oui, l'humanité peut être fière de ces femmes qui ont osé, de l'énergie, de la combativité, de la persévérance qu'elles ont eue afin de construire des organisations, de mener des grèves, de participer aux guerres sociales. C'est à ce prix que les femmes dans certains pays de la planète ont gagné le droit de voter, de travailler, d'accéder à la liberté de disposer de leur corps. Pendant des décennies, au XIXe puis au XXe siècle, les combats pour l'émancipation des femmes ont été portés par les interventions politiques des masses ouvrières, par les luttes de la social-démocratie puis des jeunes partis communistes. De partis qui contestaient à la bourgeoisie son pouvoir sur la société, qui mettaient eux-mêmes en place leur propre réseau et, nous l'avons dit, leurs propres valeurs, la solidarité de classe, la fraternité, l'internationalisme, les idées collectivistes. Aujourd'hui, tout ce qui représentait une contestation de la domination de la bourgeoisie, même réformiste, même déformée par le stalinisme, n'existe plus. Aujourd'hui, les forces politiques à l'offensive sont celles qui défendent l'ordre existant. Des courants réactionnaires prêts à toutes les extrémités politiques pour tenir à bout de bras le système capitaliste en crise permanente, un système qui parasite toute l'économie. Et cela se traduit par le recul de toute la société. Quand les combats cessent, quand les opprimés subissent, les droits pourtant acquis de haute lutte reculent. La situation actuelle des femmes est un indicateur de la marche en arrière de toute la société, car, comme l'écrivait Charles Fourier au XIXe siècle, dans chaque société, le degré d'émancipation des femmes est la mesure naturelle de l'émancipation générale. Dans les pays pauvres de la planète, où les populations sont soumises à des dictatures infâmes ou à des guerres incessantes, le sort des femmes n'a guère progressé et est même devenu épouvantable dans certains endroits. Abandon de bébés-filles à la naissance, mariage forcé, esclavage, mutilation sexuelle, viol de guerre, crime d'honneur, exécution publique, meurtre. Et même quand les femmes avaient gagné des droits en participant aux luttes d'indépendance de certains pays, elles sont écrasées par la poussée des forces réactionnaires. Les filles et les petites filles de celles qui avaient jeté leur voile sont contraintes de le porter à nouveau et de subir le code de la famille, comme en Algérie. En Arabie Saoudite, les femmes sont obligées de disparaître sous un voile noir qui les couvre de la tête aux pieds. Leur sexualité est sous contrôle et elles peuvent être lapidées sur la place publique pour adultère. Elles n'ont pas le droit de sortir sans être accompagnées par un homme de la famille. Elles n'ont pas le droit de conduire une voiture. La mixité est interdite. Dans bien des pays, la place des femmes dans la société se limite à ce que les États et les mentalités leur accordent, et même le droit à l'existence peut leur être refusé. Une chanson populaire de l'Inde dit « Pourquoi es-tu venue au monde, ma fille, quand un garçon je voulais ? Va donc à la mer remplir ton seau, puisses-tu y tomber et t'y noyer ?» En Chine et en Inde, ces deux pays qui concentrent un tiers de la population mondiale, il y a un déficit de naissance de petites filles de plus de 100 millions. Ce déséquilibre démographique a pour conséquence des enlèvements ou le commerce des femmes dans les régions où les hommes sont beaucoup plus nombreux. Dans les pays où l'impérialisme pourrissant s'accroche à ses privilèges en semant la guerre, il n'en finit pas de générer des bandes armées qui terrorisent les populations qu'elles veulent contrôler. Et tous ces intégristes religieux, qu'il s'agisse des talibans en Afghanistan, Boko Haram en Afrique, Daesh en Syrie, érigent leur haine des femmes en religion d'État et donnent, même aux plus pauvres des plus pauvres, la possibilité d'écraser encore un autre être humain, la femme qui lui est jetée en pâture. C'est le visage d'une réaction extrême, l'image la plus barbare du recul que l'impérialisme impose au monde pour son maintien. Cette évolution réactionnaire, elle se manifeste y compris dans les pays riches. En novembre dernier, par exemple aux États-Unis, un fou furieux a tiré aux abords d'un centre d'IVG dans le Colorado. Cette attaque reflète les autres, moins sanglantes peut-être, mais tout aussi violentes contre le droit à l'avortement. En France, avorter redevient de plus en plus un parcours du combattant à cause des mesures d'austérité prises par les différents gouvernements contre l'hôpital public, avec les suppressions de postes, la fermeture de centres d'IVG, la pénurie de gynécologues. La crise, les attaques contre les services publics de santé font reculer le droit à l'avortement et ressurgissent des situations du passé avec des femmes contraintes, pour celles qui en ont les moyens, d'aller avorter à l'étranger quand les délais légaux sont dépassés. Et puis, il y a les ennemis de l'avortement, comme Marion Maréchal Le Pen, qui veut supprimer les subventions au planning familial, et tous ses acolytes qui veulent imposer leur vision rétrograde de la famille, un papa, une maman, un mariage, bien évidemment à l'église. Mais ce qui menace encore le droit à l'avortement, et plus généralement les droits des femmes, c'est le recul des consciences. Le fait que pour des dizaines de milliers de jeunes femmes aujourd'hui, il est inenvisageable d'avorter. Le fait que dans les lycées, ceux qui défendent le droit à l'avortement subissent la pression des autres, le poids d'une morale d'un autre âge. Si bien que la simple idée que les femmes ont le droit de disposer de leur corps reste un combat à mener. Les idées réactionnaires sont dans l'air du temps. Le racisme, la misogynie, l'homophobie, la poussée des idées obscurantistes et religieuses. Même les idées des philosophes des Lumières ne sont pas en vogue dans cette société qui clame haut et fort que oui, c'est normal qu'il y ait des inégalités, oui, c'est normal que les faibles soient écrasés. Et les intégristes religieux, produits du pourrissement de la société, cherchent à faire croire, dans leur quête du pouvoir, que c'est dans le combat contre toutes les idées progressistes, en particulier contre le féminisme, que se trouve le salut contre la domination de l'Occident. Contre le reflux important des idées progressistes, contre tous les courants politiques réactionnaires, il est vital que renaisse le mouvement ouvrier, ses combats, ses valeurs, car ce sont les interventions massives de la classe ouvrière, ces luttes qui ont fait progresser la société et qui ont donné des droits aux opprimés qui n'en avaient pas, en particulier aux femmes. Et il faut que renaisse un parti représentant les intérêts politiques du patronat. Et il faut que renaisse un parti représentant les intérêts politiques du prolétariat, un parti qui s'opposera. Un parti qui s'opposera à toutes les formes d'inégalité et d'oppression dans les quartiers, dans les entreprises, dans les écoles, dans toute la vie sociale. L'oppression des femmes est érigée en tant que système depuis que la société est divisée en classes sociales sur la base de la propriété privée des biens de production. Certes, les femmes ne constituent pas une classe sociale. Néanmoins, elles forment une partie de la classe ouvrière. Pour les femmes prolétaires qui subissent directement l'exploitation capitaliste, il n'y a guère le choix. Pour lutter contre la précarité, les bas salaires, le mépris patronal et les inégalités liées à leurs conditions féminines, il leur faut lier leur combat à l'ensemble des travailleurs contre l'exploiteur commun. Mais nous souhaitons aussi nous adresser aux femmes qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ne se sentent pas appartenir à la classe ouvrière ou pas encore. Si elles veulent se libérer réellement de leur oppression, eh bien leur place n'est pas à part, mais aux côtés de celles et de ceux qui luttent contre cette société d'exploitation. Les femmes ne pourront se libérer complètement de leur oppression qu'en se battant et en détruisant la société capitaliste qui repose sur les inégalités et l'exploitation. Pour être des féministes conséquents, comme pour être des antiracistes ou des anticolonialistes conséquents, on ne peut qu'être communiste. Notre conviction profonde, c'est que l'humanité ne se divise pas entre les hommes et les femmes, entre noirs et blancs, entre ceux qui ont des papiers et ceux qui n'en ont pas. C'est l'organisation capitaliste qui divise la société en deux classes, aux intérêts antagonistes. Et nous avons cette conviction que la classe des travailleuses et des travailleurs a un rôle historique à jouer, en finir une fois pour toutes avec ce monde barbare. Et quand notre monde sera débarrassé de cette division, ce sera enfin le début d'une autre histoire, celle de l'humanité libérée. Les différences seront des richesses. Et quand sera-t-il alors des relations entre les hommes et les femmes, quand la société sera débarrassée de la propriété privée, des rapports de pouvoir et de domination, quand les êtres humains seront débarrassés de tout le fatras de préjugés, de pressions, de stéréotypes. Sommes-nous même capables d'imaginer ce que pourraient être les relations sociales dans une autre humanité? Mais cela ne nous empêche pas de nous battre pour que les générations futures puissent vivre pleinement libres et conscientes. Et pour conclure, je voudrais citer notre camarade Arlette Laguiller. Je rappelle qu'elle était, en 1974, la première femme, une travailleuse, à se présenter à l'élection présidentielle. Femmes, mes sœurs, ouvriers, mes frères, pour les socialistes révolutionnaires, l'égalité de l'homme et de la femme n'est pas un droit, c'est un fait. Si la femme occupe aujourd'hui une situation inférieure à l'homme, ce n'est pas dû à son manque de capacité qui n'existe que dans la tête des réactionnaires. C'est parce que nous vivons dans une société d'exploitation, une société qui repose sur l'injustice et l'inégalité. Et les femmes, toutes les femmes, y compris celles de la bourgeoisie, sont victimes de cette société d'exploitation. Et ce n'est pas par hasard si c'est précisément une militante d'extrême gauche qui est la seule à défendre ces idées-là en tant que femme dans cette campagne électorale. Cela signifie que seuls les révolutionnaires socialistes mettent leurs actes en accord avec leurs idées. Parce que la liberté ne se divise pas, les femmes ne seront réellement libres et égales, c'est-à-dire considérées à leur valeur humaine, que lorsque tous les individus seront libres. Tous les individus, y compris ceux qui, aujourd'hui, supportent l'oppression et l'exploitation sous toutes ses formes. Toutes ces chaînes, toutes ces oppressions sont liées. Et dans le grand combat unique pour la liberté, les femmes ont une place qui leur revient de droit.